Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
Paris ne décolère pas contre Alger. Devant les caméras, le ministre de l'Intérieur ne mâche pas ses mots.
Je pense qu'on a atteint avec l'Algérie un seuil extrêmement inquiétant. On voit bien que l'Algérie cherche à humilier la France.
Le ton monte depuis que l'Algérie a refusé jeudi d'accueillir sur son sol un influenceur algérien expulsé pour des propos haineux. L'homme, qui vit en France depuis 36 ans, a été renvoyé illico presto vers Paris. Le gouvernement algérien dénonce une expulsion injustifiée et précipitée dans un communiqué relayé par la presse.
L'extrême droite française, revancharde et haineuse, mène actuellement une campagne de désinformation contre l'Algérie. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères.
Cette crise diplomatique contraste avec le bain de foule du jeune président Macron en 2017 dans les rues d'Alger. En 2022, le président Tebboune se félicitait même d'un rapprochement avec la France.
Un rapprochement qui n'aurait pas été possible si il n'y avait pas la personnalité même du président Macron.
Sauf qu'Emmanuel Macron a depuis contrarié la présidence algérienne. En octobre, lors d'un voyage à Rabat, il a réaffirmé la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, un territoire revendiqué par le Front Polisario avec l'appui de l'Algérie. Et lundi dernier, Emmanuel Macron a condamné l'arrestation de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal.
L'Algérie que nous aimons tant entre dans une histoire qui la déshonore. Il est détenu de manière totalement arbitraire.
Alors la France va-t-elle riposter avec des restrictions sur les visas et une remise en cause des accords sur l'emploi ainsi que le séjour des ressortissants algériens? L'Algérie va-t-elle refuser de délivrer des laissez-passer consulaires nécessaires à l'exécution des obligations de quitter le territoire? La crise diplomatique entre Paris et Alger a-t-elle atteint un point de non-retour?
Nos trois invités, Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir. Fondateur, directeur de la publication du site atlantico.fr. Selon vous, le but d'Alger est de déstabiliser la France. Il faut trouver un responsable à cette crise. C'est le régime algérien, qui est un régime autoritaire, non démocratique et incapable de gérer l'Algérie. À côté de vous, Adlène Mohamedi, bonsoir monsieur. Bonsoir. Chercheur et enseignant en géopolitique, spécialiste du monde arabe. Selon vous, s'il y a des provocations des deux côtés, il est vrai que du côté français, la droite et l'extrême droite ont un problème avec l'Algérie. Quant à Emmanuel Macron, vous ajoutez qu'il est en train de révéler son incohérence sur le sujet. Et à côté de vous, Farida Souya, bonsoir madame, politiste, spécialiste de l'Algérie et des migrations. Selon vous, cette crise est la énième manifestation de l'état déplorable des relations franco-algériennes, mais on imagine mal, ajoutez-vous, une rupture diplomatique totale entre Paris et Alger. Ce serait parfaitement impraticable pour chacune des deux parties qui auraient à y perdre. Et on débarre avec la une du jour.
Oui, c'est celle de Jeune Indépendant, un quotidien généraliste algérien en langue française, avec cette manchette accusatrice sur la haine, l'amateurisme, regardez, et l'algérophobie de la France. Et ce surtitre, quand le mensonge en France devient une politique d'État, une à l'unisson de la quasi-totalité de la presse algérienne, vent debout contre la France. Jean-Sébastien Ferjou, chacun des deux pays s'estime humilié par l'autre et se renvoie la balle.
Oui, je ne sais pas si l'humiliation est d'ailleurs une très bonne idée comme grille d'analyse des relations internationales, d'autant qu'on n'est jamais humilié que parce qu'on décide d'accepter le sentiment d'humiliation. Peut-être j'aurais été, moi, ministre, Dieu en préserve la France, j'aurais probablement parlé de volonté de l'Algérie d'humilier la France, d'infliger un camouflet plus que d'humiliation à proprement parler. Mais on voit bien que le régime algérien cherche à effacer ses propres difficultés. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de cynisme ni de visée politicienne en France, hein, ça fait partie du registre. Enfin, quand même, de manière générale, la provocation, elle est là du côté du régime algérien. Et quand on regarde ce qui se passe, justement, avec, vous savez, les Algériens sont très proches des Iraniens aussi, les Iraniens ont des influenceurs partout, ça a été établi, nous avons beaucoup travaillé dessus sur Atlantico, des influenceurs dans les universités occidentales, dans les partis de gauche, bien souvent occidentaux, pour porter leurs intérêts. Et pas seulement leurs intérêts en tant que tels, aussi parfois tout simplement parce que le simple fait d'affaiblir la personne ou l'État qui vous fait face est déjà un gain politique.
Mmh. Non, je voyais sourire quand votre voisin évoquait les influenceurs iraniens.
Des influenceurs français qui peuvent être manipulés. À Atlantico, nous avons publié une enquête. Mmh. Bah, vous savez où est l'influenceur en question ?
Non.
Il est aujourd'hui à Téhéran, il est entendu par les services de renseignement français, il est aujourd'hui à Téhéran. Donc ils existent, ces gens-là.
Je souriais sur la proximité, évoquée entre Alger et Téhéran, parce qu'on fantasme beaucoup sur des axes géopolitiques, alors que l'Algérie entretient de très bonnes relations jusqu'à preuve du contraire, avec les États-Unis par exemple, avec des pays, et avec des alliés,
de la France. Ensemble.
C'est ça que je voulais dire. Mais...
Oui.
Juste sur l'algérophobie, c'est un sentiment qui est très partagé aujourd'hui en Algérie, vis-à-vis de la France, est-ce que vous le constatez ?
Bah, oui, enfin, disons qu'il y a une propagande officielle qui fonctionne. C'est pour ça que quand on parle des influenceurs et des liens présumés avec, avec le régime en place, on le dit comme si c'était la seule explication possible. Mais l'autre explication la plus simple, qui n'est pas forcément la plus absurde, c'est qu'une bonne partie en fait, de l'opinion publique algérienne a intériorisé une propagande, la propagande du pouvoir algérien. Et il n'y a pas besoin en fait, de financer ce genre de profil pour rencontrer ce type de discours. C'est-à-dire, ces gens-là, les influenceurs que vous avez évoqués, moi je pense que souvent, en fait, ils croient vraiment à leur discours. Ils ont vraiment intériorisé ce discours.
Ah oui, Farida Souya, ce niveau de tension est quand même rarement atteint entre Paris et Alger ces 20 dernières années-là, non ?
Oui, un niveau de tension. C'est surtout qu'en fait, c'est des épisodes, normalement, qui sont assez forts et puis qui, après, s'effacent un petit peu. Et là, ils se sont un peu ajoutés les uns les autres et ça donnait un peu un aspect pluriel, multiforme à cette crise. Et chaque épisode un peu accentue l'autre. C'est-à-dire que la question du Sahara occidental n'est pas loin, celle de Boualem Sansal n'est pas loin, celle des influenceurs n'est pas loin. Et donc c'est ça aussi qui est un petit peu inédit. Mais bien sûr, en fait, c'est une histoire qui, depuis 1962, n'a pas connu que du beau fixe. Hein, même les premières crises diplomatiques avec, la nationalisation des hydrocarbures. Donc on ne peut pas dire que la tension, elle est inédite. Mmh. Mais le fait qu'elle s'égrène un petit peu comme ça et s'ajoute ainsi, c'est inédit.
Alors, on va revenir avec vous trois et avec vous, Paola, sur justement les influenceurs dont vous parliez à l'instant. Que veulent-ils ?
Alors, depuis début janvier, il y a eu une vague d'interpellations d'Algériens ou de Franco-Algériens un peu partout en France. Voilà ce qu'on leur reproche, avoir incité à la haine et à la violence sur les réseaux sociaux. Au total, ils sont 6 en détention provisoire dans l'attente de procès pour apologie du terrorisme. On peut citer notamment à Brest Youssef A, alias Zazou Youssef, qui est suivi par 400 000 abonnés sur TikTok et qui avait appelé à commettre des attentats pour le nouvel an. Il avait déclaré dans une vidéo « On va tirer sur vous, vous voulez sortir le 1er janvier, il faut faire parler la poudre, président Tebboune, ils veulent le chaos, on pourrait citer encore près de Grenoble, Imad Tintin, dit blédard de luxe, qui toujours sur TikTok avait appelé à brûler vif, à tuer et à violer sur le sol français et qui faisait l'objet d'une OQTF. Alors parmi ces influenceurs, il y a aussi le fameux Doualem, donc qu'on a évoqué dans le sujet, dont la France a essayé donc de l'expulser pour menace à l'ordre public, et celui qui a signalé ces influenceurs, eh bien, c'est un opposant au régime algérien. Il s'appelle Chaouki Benzera. Il est en exil en France et pour lui, il ne s'agit absolument pas d'un hasard. Il parle d'une campagne de déstabilisation qui a été lancée contre la France. Est-ce que vous pensez qu'il a raison, Jean-Sébastien Ferjou ? Est-ce que pour vous, c'est une campagne de déstabilisation ? C'est une stratégie délibérée de la part d'Alger ?
Il est très difficile de l'établir en l'état. Il y a des faisceaux d'indices en quelque sorte. Et pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, la stratégie la plus habile, c'est quand vous misez sur des gens qui sont déjà convaincus. Nous venons de publier hier une enquête très intéressante que je vous invite à regarder sur ces publicités. Non, oui, mais parce que ce sont des sujets fondamentaux, Elisabeth. Mm-hmm. Vous savez, ces pubs idiotes que vous voyez, quand vous jouez à un jeu vidéo, ces pubs idiotes qui sont en dessous des articles. Vous vous demandez, mais qui peut me prendre suffisamment pour un imbécile pour penser que je vais acheter ces produits-là ? Mais précisément, elles sont conçues, et c'est notamment ce qui s'est passé en Roumanie, c'est comme ça que les données personnelles ont été absorbées, parce que quand vous cliquez sur ces pubs-là et que vous achetez quelque chose, ou que vous tombez dans le piège, ça permet à des régimes étrangers de racheter ces données-là et de repérer les plus crédibles. Donc ne soyons pas naïfs face au fait que ces opérations-là existent. Après, existent-elles là spécifiquement ? Je ne sais pas, mais elles existent, et encore une fois, l'Algérie, les services algériens travaillent avec les services iraniens, pas que, mais ou avec les services turcs, et encore une fois, l'Algérie a toujours
toujours essayé, ça n'est pas anodin que ce soit un autre Algérien, un opposant algérien qui ait signalé ça, parce que ça vise qui en premier lieu? Ça ne visait pas d'ailleurs probablement à effrayer les Français eux-mêmes, ça visait à effrayer ceux des Français ayant des ascendances algériennes ou algériens opposant au régime pour qu'ils se taisent, de la même manière que le président Erdogan le fait vis-à-vis des communautés turques.
Alors, Adlan Mohamedi,
en Europe.
L'Algérie, justement, en estimant que Doualem, qui vit en France depuis 36 ans, ne devait pas être extradé en Algérie, qu'il a renvoyé, est-ce que quelque part, il ne cautionne pas ce qu'il propage en France ?
Ouf, je n'irai pas jusqu'à dire ça, en fait. Je pense que le drame de cette relation, de cette tension bilatérale, c'est qu'on a une relation diplomatique qui est utilisée à des fins de politique intérieure dans les deux pays. C'est-à-dire qu'en Algérie, on a une propagande anti-française qui est de plus en plus assumée et qui est au service, finalement, d'une volonté de relégitimer un pouvoir qui manque de légitimité démocratique. Et en France, on a un discours anti-algérien qui sert les intérêts de la droite et de l'extrême droite et qui veut présenter les Algériens comme une espèce de, comment dire, comme une espèce de danger pour la sécurité en France. Donc dans les deux cas, pour moi...
Ceux des Algériens qui ne se reconnaissent pas français. Pardon, ce week-end, figurez-vous, je suis passé sur une autoroute près de Lyon, à Chasse-sur-Aune, et bien, il y avait un pont, il y avait des gens qui agitaient des drapeaux algériens faisant des doigts d'honneur à tous les autres.
Oui, mais je suis désolé,
donc,
mais cette...
Pardon, mais les Français, qu'ils soient ou non d'origine algérienne, ils ont ça sous les yeux, c'est une réalité qui existe.
Non, on ne parle pas du tout de la même chose.
Vous le réduisez à la droite.
Pas du tout. Cette problématique-là, elle existait déjà. Les drapeaux algériens existaient déjà en France. Ça n'a strictement rien à voir avec les tensions bilatérales actuelles. Donc, c'est pour ça que quand je parle de la droite et l'extrême droite, la droite... La droite et l'extrême droite en France se saisissent des tensions bilatérales actuelles pour évoquer des problèmes comme celui-ci qui ne datent pas d'hier. C'est ça que je suis en train de dire.
La droite et l'extrême droite, si ça vous fait plaisir, se préoccupent des défauts d'intégration de l'immigration en France. Ce n'est pas un sujet illégitime dans une démocratie.
Mais les tensions franco-algériennes ne sont pas liées à un défaut d'intégration. C'est quand même incroyable.
Il y a une double réalité.
Oui, mais pourquoi en parler aujourd'hui?
Mais il y a une double réalité. Il y a une réalité qui est celle de la relation d'État à État et une réalité qui est celle de la relation de communauté qui partage une histoire commune.
Sur cette question.
Sur cette question-là, moi, ce que je dois avouer, c'est que j'ai l'impression que c'est une chose sur laquelle on n'arrive pas du tout à avoir, justement, un débat qui n'est pas clivant. Il faut absolument en revenir, en effet, à des enjeux politiques internes des deux pays systématiquement. Et en effet, alors qu'il y a des problèmes d'intégration en France, je pense que sociologiquement, c'est documenté. Et ça, c'est aussi des politique de la ville à le résoudre, etc., de savoir si ces problèmes d'intégration, ils doivent forcément se métamorphoser en discours d'appel à la haine sur les réseaux sociaux, c'est quand même pas du tout les mêmes personnes, là on parle pas de la même chose exactement, ça veut dire brandir un drapeau algérien dans un espace public et appeler au viol ou à la violence sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la même chose, ensuite que cela... Ça justifie ensuite des politiques de diplomatiques coercitives d'un côté ou de l'autre, d'aller forcément dans la négociation par la force. Ça pose aussi une question.
Alors, vous parlez justement des mesures de coercition.
Vous voyez bien que l'Algérie, de manière générale, s'oppose systématiquement, y compris à la bonne volonté des autorités françaises.
Comme le Maroc et la Tunisie. Sous les OQTR.
Bon, alors, quelles mesures de rétorsion, justement, vous parliez, diplomatique, notamment, ça peut être le cas. C'est ce que répond non pas le ministre des Affaires étrangères français, mais celui de la justice, Gérald Darmanin.
Il y a notamment un accord de 2013, qui est un accord gouvernemental qui permet à ceux qui ont un passeport officiel, un passeport diplomatique algérien, il y en a des milliers, qui peuvent venir en France sans visa pour pouvoir circuler librement. Je pense que toucher les dirigeants ou la plupart des dirigeants algériens qui ont la position de décision d'humiliation, ça me paraît plus intelligent, plus efficace et ça peut se faire très rapidement. Il faut supprimer cette facilité.
Jean-Sébastien Ferjou, il y a quand même une surenchère actuellement là, dans en politique, chez les politiques français, sur comment réagir, chacun essayant de trouver un mode de rétorsion. Les visas, l'aide au développement, la taxation de transfert des devises.
Mais... Encore une fois, on peut distinguer deux choses. On peut distinguer l'instrumentalisation politique que peut-être certains font avec le fait que ce soit un objectif politique légitime que d'essayer de rééquilibrer la relation avec l'Algérie. Et il me semble du reste que respecter l'Algérie et les Algériens, c'est cesser de se montrer paternaliste en fermant les yeux sur ce que fait l'Algérie, parce qu'il y a quelque chose de profondément paternaliste et peut-être même de raciste à considérer finalement que les Français seraient systématiquement responsables de tout, ce qui était un peu la posture d'Emmanuel Macron en allant en Algérie parler de crimes contre l'humanité en faisant abstraction des crimes qui ont été commis de part et d'autre au moment de la guerre d'Algérie et même après l'indépendance algérienne, les massacres d'Oran, par exemple, c'est très paternaliste. Donc, il est parfaitement légitime...
Il évoquait crime contre l'humanité à propos de la colonisation.
Oui, mais ce qui peut être discuté, mais à la limite, on peut reconnaître, et c'est la grandeur d'une culture, d'une civilisation, que de savoir reconnaître ses fautes. Mais il y a un côté lost in translation, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas, ou la France peine à comprendre, que dans la culture du monde arabo-musulman, le rapport de force, l'humiliation et le ressentiment sont des moteurs majeurs. Et donc, effectivement, trop de
je ne sais pas si je peux tout à fait penser dans la culture arabo-musulmane, l'humiliation, enfin c'est très culturaliste comme
question
de manière de voir les relations internationales qui sont aussi des...
Il y a beaucoup d'auteurs du monde arabo-musulman qui le disent.
Oui, et c'est des explications culturalistes. En fait, c'est aussi des jeux d'acteurs, c'est des jeux d'acteurs, des autres stratégies. Et d'ailleurs, c'est un problème parce qu'on voit toujours les acteurs, les États, d'ailleurs, on les personnifie, on leur prête des émotions, on les réifie. La France, en réalité, il y a beaucoup de contradictions au sein de la France entre le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires étrangères, selon qui l'habite. En Algérie exacte aussi, ce n'est pas des acteurs qui sont complètement uniformes, qui ont des intentions, qui parlent d'ego. En plus, c'est un discours un peu masculiniste, de voir un peu le côté, on parle de l'humiliation, de choses comme ça. En fait, ce n'est pas ces enjeux-là. C'est des relations internationales. Et après, il y a les mesures coercitives qui sont appelées et voir est-ce qu'elles sont praticables ou pas. Ça veut dire on va arrêter d'octroyer ou on va octroyer moins de visas. Les visas de court séjour en France dépendent du code communautaire des visas, qui sont des visas Schengen. Eh bien, il y a une prévision. Et là, normalement, ce sont des visas qui sont là pour essayer d'estimer si la personne représente un risque sécuritaire ou migratoire. On peut bien sûr les implémenter de façon plus ou moins stricte, mais les utiliser comme instrument de diplomatie coercitive, c'est détourner l'usage du code de visa, qui est un usage... qui a un code des visas qui est communautaire.
Non, la manière dont les visas ont été attribués détourne précisément le fameux code. Vous voyez bien qu'il y a une filière d'immigration qui s'est installée.
Il ne parlait même pas des visas, là. Il parlait des passeports diplomatiques. Enfin,
n'inversons pas la réalité des 30 dernières années.
Sur le visa, pour qu'on avance. Est-ce que, Adlène Mohamedi, vous estimez que la France en est pour partie responsable, puisqu'on sait que quand elle a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, ça a déplu fortement à Alger.
En fait, pour moi, il y a deux problèmes dans la diplomatie française actuellement. Il y a un problème de cohérence et un problème de nuance. Le problème de cohérence...
Concerne le Sahara occidental ?
Oui, bien sûr. Ça, c'est le deuxième. Mais le problème de cohérence, ça concerne directement l'Algérie, le pouvoir algérien. C'est-à-dire que quand, en 2022, les relations étaient excellentes entre les deux présidents et qu'en 2022, M. Macron était à Alger, il y avait déjà des prisonniers politiques en Algérie. C'est qu'à l'époque, ça ne gênait personne. On n'avait pas ce genre de débat, on n'avait pas ce genre de... C'est pour ça que je dis, il y a un débat à des fins politiciennes en France. Pour ce qui est du problème de nuance, c'est que depuis cette déclaration sur le Sahara occidental, il y a cette musique un peu gênante et un peu dangereuse qui consiste à penser ou à laisser penser que la relation avec le Maroc est nécessairement fluide et utile pour la France. Récemment, le président Macron a parlé de relais en Afrique subsaharienne pour le Maroc, que la relation avec l'Algérie était une relation insurmontable qu'il fallait à tout prix contourner. Ça, c'est quand même une drôle de diplomatie, parce que la diplomatie qui consiste à vouloir avoir la tentation du sacrifice d'une relation, c'est une diplomatie très problématique, c'est une impasse diplomatique en réalité. Et en plus, on oublie à quel point les relations entre les deux pays sont plus que comparables, c'est-à-dire que la relation avec l'Algérie n'est pas sacrifiable.
Sur cette ambivalence diplomatique française, tout de même, et rappelons quand même que le Sahara occidental est réclamé aussi par l'Algérie, et ça devait faire l'objet d'un référendum.
Si vous voulez me faire dire qu'il n'y a aucune cohérence dans la politique étrangère d'Emmanuel Macron, j'ai l'impression que même son conseiller diplomatique en est le premier convaincu, il vient de démissionner, quand on lit entre les lignes, on comprend qu'il y a justement des doutes par rapport à la constance ou l'inconstance du président. Donc ça, c'est évident. Après, sur la posture intellectuelle elle-même, pourquoi la France ne pourrait-elle pas décider, si elle le souhaite, de privilégier le Maroc à l'Algérie ou à n'importe quel autre pays, comme elle privilégie les États-Unis ou privilégie le Canada ou aux États-Unis, ça fait quand même partie de sa souveraineté. La problématique là, on voit bien une Algérie qui, d'une part, ne cède jamais rien, parce que moi je peux inverser aussi la posture. Les débats qui arrivent là, pourquoi arrivent-ils ? Pourquoi la France se dit finalement autant miser sur le Maroc ? C'est aussi parce que l'Algérie n'a montré aucune bonne volonté, notamment dans la reprise de ses citoyens placés sous des OQTF en France.
Ce sont les seules modalités de coopération, la reprise de citoyens. On a l'impression que c'est l'alpha et l'oméga.
Pour le coup, c'est le droit international. Vous voyez bien que c'est une problématique majeure dans les démocraties occidentales, que cette problématique d'intégration, et a fortiori d'intégration de personnes qui ne respectent pas le droit des pays où
Farida
ils sont installés.
Il y a quand même beaucoup de coopération et de collaboration sur plein d'autres enjeux, les enjeux sécuritaires historiquement.
Sur l'antiterrorisme,
précisément. Oui, notamment parce que autour des djihadistes et du terrorisme.
Exactement. Alors, il y a des collaborations scientifiques, il y a des collaborations économiques, et elles sont aussi décentralisées. On voit la collaboration parfois qu'au niveau des États, mais en fait, la collaboration, elle a lieu par de multiples acteurs, elle n'est pas incarnée que par des institutions nationales et par l'État. Et ça, c'est aussi la réalité. Et il peut y avoir des moments de brouille diplomatique, même avec des retraits d'ambassadeurs, où on va vous dire, ou même les diplomates avec lesquels je fais des entretiens pour mon travail diront, mais en fait, là, au niveau technique, au niveau du terrain, ça ne change rien pour l'instant. Et il y a d'autres moments où, bien sûr, il y a des deux côtés des exécutions de politiques un peu plus restrictives ou coercitives, mais cette collaboration, elle est plurielle. Elle ne se limite pas.
Des liens humains très forts.
Elle ne se limite pas aux OQTF.
Il faut les préserver, mais c'est pour ça qu'il faut distinguer les liens humains qui peuvent exister entre les Français eux-mêmes d'ascendance algérienne et les Algériens, et les relations d'État.
C'est précisément parce qu'il y a ces liens humains importants que vous donnez l'impression de vouloir sacrifier une relation bilatérale et de se focaliser sur une autre est problématique.
Mais je ne crois pas qu'un bras de fer diplomatique concise. Est-ce que vous avez l'impression que Donald Trump veut sacrifier absolument sa relation avec le Danemark ? Est-ce que vous croyez vraiment quand il part du Groenland, il a décidé qu'il ne voulait plus de relations avec l'Union européenne ?
Mais
la diplomatie, c'est aussi parfois le rapport
de force.
C'est intéressant
parce que si vous faites de Donald Trump votre boussole en diplomatie, effectivement, c'est inquiétant parce que c'est peut-être le modèle qu'on est en train de suivre. C'est une diplomatie transactionnelle où effectivement, on sacrifie facilement des partenaires. Donald Trump l'a fait. Et je pense
Quel partenaire aurait-il sacrifié ?
Non, il a sacrifié, par exemple, l'accord sur le nucléaire avec l'Iran au Proche-Orient. Ce que je veux dire, c'est que sacrifier
qui n'était pas respecté par les Iraniens. Donc
ça, c'est le discours de Donald Trump. Ce que je veux dire, c'est que
réalité établie par
ce qui est certain, c'est que si on devait le faire, si ce modèle-là devait être appliqué par la France, ce serait problématique, ce serait gênant.
C'est celui que les Algériens mettent en œuvre. Pardon, mais ouvrez les yeux. C'est exactement celui que les Algériens défendent.
Qui défend ici le pouvoir algérien ? Parce que vous me parlez comme si j'étais un diplomate algérien. Je suis en train de parler de la diplomatie française et des incohérences de la diplomatie française.
Que nous avons tous les deux sur ce sujet-là et je dis que vous
effectivement
vous préoccupez
que le ton monte entre
la France
et l'Algérie, y compris d'ailleurs un peu sur ce plateau. Mais Farida Souya, justement, si on devait aller vers une désescalade, qu'est-ce qui pourrait contribuer à cette désescalade ? Peut-être la libération de l'écrivain Boualem Sansal. Quelles sont les choses qui pourraient faire redescendre la température, justement ?
Honnêtement, de façon tout à fait réaliste, je ne pense pas que ça va être la désescalade tout de suite. Mmh. Je pense que ça va pouvoir se calmer parfois. Les choses aussi juste stagnent un petit peu et finissent par se calmer. Et la réalité, c'est là aussi, de façon tout à fait pragmatique, qu'est-ce qui marche ? Est-ce que ça marche ? Parce que, par exemple, dans le passé, il y avait déjà eu une restriction des visas pour avoir des OQTF. Est-ce que ça a marché ? Est-ce que rentrer dans un bras de fer
Est-ce que la complaisance a marché, si on le prend dans l'autre sens ? Si on fait le bilan des 60 dernières années, est-ce que la complaisance et cette espèce de paternalisme qui, encore une fois, consiste bien souvent à fermer les yeux sur les comportements du régime algérien ou ses manquements démocratiques, est-ce que ça a marché ?
Farida Souya, répondez.
La question, c'est vraiment, est-ce qu'il n'y a pas, je pense, de défenseur de la politique, ni diplomatique, ni intérieure du régime algérien sur ce plateau ? Soyons bien clairs. Là-dessus, il n'y a pas
d'analyse de la
posture française. Je ne vous demande pas de défendre l'Algérie.
On parle juste de la posture française.
Sébastien Ferjou, pas de masculinisme, pas de manspreading, laissez-la parler.
Je pense que la question, elle est honnêtement, elle est devenue presque trop politique. Je pense que dans la diplomatie, et notamment sur le terrain, et c'est difficile de faire des acteurs, par exemple, moi j'aimerais bien parler aux pauvres diplomates qui vont devoir, à Alger, mettre en place cette politique de restriction des visas, parce qu'elle est très impratique. Et donc, en fait, c'est pas les acteurs, la France, l'Algérie, qui on défend, et c'est un bras de fer. Franchement, je pense honnêtement que l'Algérie ne répond pas non plus de façon positive au rapport de force par le bras de fer.
Merci à tous les trois d'avoir débattu avec Tonus et Courtoisie ce soir et d'avoir exploré notre question.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.